Il est midi et demi, pile, bienvenue à tous, bonjour, bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Ça y est, le pass vaccinal est entré en vigueur depuis quelques heures maintenant, depuis ce matin. On va aller sur le terrain voir comment ça se passe et puis on sera en direct avec le docteur Benjamin Davidot qui est infectiologue. Emmanuel Macron enfile ses bottes de pré-candidat en campagne, il est dans la Creuse aujourd'hui. Avant la Haute-Vienne, demain, Jacques Serret nous dira comment il compte faire pour atténuer son image de président des villes. On sera en direct avec Alexandre Delval, spécialiste de l'islam radical. Je voulais que vous l'entendiez dans Europe Midi sur cette rue commerçante de Roubaix qui a basculé dans l'islam radical. Et puis la tendance météo, Anissa Haddadi, avec du beau temps dans un froid hivernal.
Et du coup, le look idéal pour cet après-midi, Romain, c'est l'écharpe, le bonnet et les lunettes de soleil après les fortes gelées de ce matin. C'est vrai que les températures sont positives partout cet après-midi, mais restent fraîches. Et côté ciel, rien à dire, c'est du grand et beau soleil pour presque tout le monde.
Voilà, écharpe, bonnet et lunettes de soleil, on a noté. Merci Anissa, à tout à l'heure pour la météo complète. Si vous allez déjeuner dans un restaurant, prendre un café ou voir un film, on va désormais vous demander un pass vaccinal. Il est donc entré en vigueur ce matin. Qu'est-ce que ça change dans nos vies de tous les jours? Wilfried de Villers, vous êtes dans les rues de la capitale. Bonjour Wilfried.
Bonjour.
Comment ça se passe? Est-ce que c'est bien accepté?
Écoutez, pour le moment, c'est bien accepté. Ça semble, il semble que ça ne change rien, en tout cas pour ceux qui sont vaccinés. Pierre, par exemple, a son schéma vaccinal complet. Alors ce matin, il ne s'est pas trop posé de questions.
On a bien compris que c'était pour forcer un peu plus les gens à se faire vacciner. Je pense que c'est l'objectif et je peux le comprendre en tout cas. Les tests, c'est bien, mais ça n'empêche pas les gens de tomber malades. Si c'est faire un test pour aller au cinéma, mais deux jours après, vous tombez malade et vous allez en réa, c'est un peu dommage. Là, au moins, la vaccination, ça te permet de désengorger les hôpitaux et de reprendre une vie normale,
Alors, faire pression sur les non-vaccinés, Pierre trouve que c'est une bonne chose. Alexandre, lui, ne comprend pas trop parce qu'ils ne sont, ces non-vaccinés, selon lui, plus qu'une poignée. Alors, le pass vaccinal, une mesure de trop.
Je ne comprends pas l'enjeu de dire qu'il faut absolument se vacciner en plus de tests qui nous permettaient de savoir si on est contaminé ou pas. Pour moi, c'est une mesure qui est totalement politique et c'est ça qui me choque, c'est qu'on est dans un contexte de crise sanitaire, on met en place des mesures politiques.
Et puis du côté des professionnels, c'est notamment pour les restaurateurs que les changements sont les plus importants. Ils peuvent désormais demander une pièce d'identité à leurs clients. Pour Shirley, manager d'un café du 5e arrondissement, ce ne sera ce contrôle qu'en cas d'énormes doutes.
Par exemple, j'ai eu une cliente qui s'appelait Lucas et qui était née en 79 alors qu'elle avait une tête d'une fille de 20 ans. Oui, à ce moment-là, on va contrôler.
Il y a des contrôles qui seront surtout bien compliqués à mettre en place en plein service, par exemple en pleine période du déjeuner de midi, d'où une certaine grogne des restaurateurs ces derniers jours.
Wilfried de Villers, merci beaucoup Wilfried. On va parler dans un instant de l'utilité, de la véritable utilité sanitaire de ce pass vaccinal avec le docteur Davidot. Mais tout d'abord, on est avec vous Céline Giraud. Bonjour Céline Giraud.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Vous vous posez peut-être des questions tous au sujet de ce pass vaccinal. Est-ce qu'il faut faire une manipulation, sur l'application Tous Anti-Covid pour passer du pass sanitaire au pass vaccinal ou est-ce que c'est automatique? Céline, dites-nous tout. Comment ce pass vaccinal fonctionne-t-il?
Alors, si vous avez plus de 16 ans, un schéma vaccinal complet, 3 doses, votre pass vaccinal a été activé automatiquement ce matin sur votre application Tous Anti-Covid, rien à faire. Votre quotidien ne change pas, vous avez accès à tout. Deuxième cas de figure, vous n'avez que 2 doses. Vous avez 7 mois désormais après la deuxième injection pour effectuer votre rappel. Et à partir du 15 février, ce délai sera ramené à 4 mois. Pour ceux qui ont été récemment contaminés et qui n'ont que 2 doses, la dose de rappel reste obligatoire dans les mêmes délais. Mais le certificat de rétablissement fait office de passe dans l'intervalle. Enfin, pour les 12-15 ans, le passe sanitaire reste suffisant. Quant aux non-vaccinés, ils sont encore près de 5 millions quand même. Alors à quoi ont-ils accès? À pas grand-chose, Romain. Sinon, les lieux de restauration collective en entreprise, les établissements de santé munis d'un test négatif et les meetings politiques. C'est l'une des exceptions de ce dispositif. Le passe vaccinal n'est pas demandé aux participants pour le moment. Le petit geste commercial du gouvernement va-t-il séduire les réfractaires? On le rappelle, passe vaccinal activé immédiatement pour tous ceux qui feront leur première injection avant le 15 février, sous réserve de faire la deuxième injection dans un délai d'un mois et de présenter un test négatif de moins de 24 heures pour pouvoir accéder dans l'intervalle aux différents lieux soumis au pass.
Merci beaucoup Céline Géraud. Voilà, hein, c'est très compliqué de vivre aujourd'hui sans ce pass vaccinal. D'ailleurs, on connaît quelqu'un en la personne du président de la République qui a dit qu'il allait, je cite, hein, emmerder hein, les non-vaccinés. On est en direct avec le docteur Davido. Bonjour docteur.
Bonjour à tous.
Infectiologue, directeur médical référent Covid-19 à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, près de Paris. Sur le pass vaccinal, déjà, rappelez-nous, mais quelle est son utilité alors qu'Omicron se répand, passe ou pas passe, hein, à la vitesse grand V?
Vous avez raison, Omicron, c'est probablement 1 million de contaminations par jour, c'est l'équivalent d'une campagne de vaccination tambour battant. Mais en fait, je crois qu'il ne faut pas réduire le pass vaccinal à un pass des non-vaccinés, d'abord parce que c'est plus compliqué qu'un pass vaccinal, c'est un pass d'immunité, comme ça m'a été expliqué. Si on a été contaminé, eh bien, on a un pass d'immunité qui rentre dans ce pass vaccinal. Et surtout, l'enjeu, c'est de faire en sorte que les personnes les plus fragiles, les 15 à 20 millions de Français dont on parlait en janvier 2021, puissent tous avoir leur troisième dose et se protègent pour, comme un auditeur l'a expliqué, n'aillent pas en réanimation parce qu'ils font une forme grave en réalité. Et la volonté, c'est d'embrayer sur une politique sans test où, à partir du moment où on ne fait plus de tests, on considère que la norme, c'est d'être protégé, qu'on soit immunisé ou qu'on ait été triple vacciné pour ne pas arriver à l'hôpital. Et je pense qu'on va arriver vers une situation comme ça.
Docteur, on parle beaucoup de ce qu'a dit le directeur Europe de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il dit que le scénario d'une fin de l'épidémie grave, grâce à Omicron, pardon, que ce scénario est possible. C'est votre avis également ?
Oui, j'y crois. J'y crois parce que, comme beaucoup de scientifiques, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un nombre substantiel de contaminations avec un variant qui touche également des gens qui ont déjà fait la maladie préalablement. Ça veut dire qu'il y a une impossibilité d'y échapper en réalité et qu'à la vitesse à laquelle ça va, si on dit qu'il y a 1 million de Français contaminés tous les jours, ça veut dire qu'en 2 mois, on aura contaminé l'ensemble des Français. Et si on arrive dans ce scénario-là, ça ne veut pas dire que l'épidémie va s'arrêter, ça veut dire qu'on va arriver dans une situation endémique avec un virus qui va se saisonnaliser très probablement et que le véritable enjeu ensuite, ça sera d'embrayer sur une campagne de vaccination et de protection des plus fragiles, probablement chaque année à l'image de la grippe. Et donc, il ne faut pas tomber dans une complaisance, mais il faut se dire que probablement que le virus est en train de faire un bout de chemin et qu'à force de nous aimer, une fois qu'il nous aura tous contaminés, on vivra avec lui.
Ouais, ouais. Une dernière question, docteur Davido. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'auront jamais le Covid ?
Alors, c'est une question qui est posée scientifiquement. Oui. On sait qu'il y a une diminution du risque dans les études, ce qui a l'air de sortir, notamment pour des raisons de groupe sanguin chez les O positifs. Et puis, il y a des gens qui ont, souvenez-vous, c'est ce qu'on appelait l'espèce de perlèche, les petites anomalies cutanées du bout des doigts, notamment chez les enfants, qui faisaient des formes asymptomatiques, post-symptomatiques du Covid, ces fameuses engelures. Et on sait que c'est dû à une réponse qui ne passe pas par les anticorps, qu'on appelle l'interféron. Enfin, tout ça pour expliquer que tout le monde n'est pas égal sur le plan génétique et les études commencent à le montrer, y compris dans les populations d'Asie face au risque de formes graves. Donc on aura peut-être, je vais vous dire artificiellement, 5% des personnes qui vont y échapper, mais le raisonnement ne doit pas se baser là-dessus, le raisonnement il doit se baser sur cette probable immunité de groupe qui arrivera par une population la plus vaccinée possible pour éviter les formes graves. Et ensuite, je crois qu'il faudra vraiment réfléchir à se dire qu'il faudra ensuite arriver sur une protection comme on fait sur la grippe et ça sera l'enjeu le plus difficile à mon avis.
Merci beaucoup, docteur Benjamin Davido, infectiologue, directeur médical, référent Covid-19 à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Très bon après-midi à vous et merci d'avoir été avec nous dans Europe Midi.
Europe Midi. Informez-vous avec Romain Desarbres sur Europe 1.
12h38, ça sent fort, voire très fort, la pré-campagne présidentielle pour Emmanuel Macron. À 2 mois et demi du premier tour, le président de la République est dans la Creuse avant la Haute-Vienne demain. Jacques serait sur place. Jacques, dans ce type de déplacement, tout est préparé. Et l'enjeu de cette visite, c'est d'atténuer l'image de président des villes d'Emmanuel Macron. Hein.
Oui, cette étiquette lui colle à la peau. Emmanuel Macron veut s'en débarrasser et tout un symbole pour entamer cette nouvelle tournée régionale de 2 jours. Le chef de l'État commence son périple par la visite du lycée agricole de A1, 350 élèves de la 4e au BTS, le seul établissement agricole de la Creuse. Emmanuel Macron est arrivé il y a quelques minutes, arrivé savamment orchestré sous les flashs des photographes, devant une quarantaine de vaches limousines. Dans quelques instants, il échangera avec les lycéens, car le chef de l'État veut parler au monde rural, ou plutôt être à l'écoute des territoires, pour reprendre l'expression d'un de ses conseillers. Tout à l'heure, toujours dans la Creuse, à Bourganeuf, ville de 2700 habitants, Emmanuel Macron participera à une table ronde consacrée aux déserts médicaux. Le manque de médecins, de services publics, de réseaux avec les zones blanches, autant de sujets sensibles à l'approche de la présidentielle qui pourrissent la vie des habitants ici et qui surtout constituent des angles d'attaque pour ses adversaires. Lui veut défendre à tout prix son bilan, son agenda rural lancé au début du quinquennat, faire le point avant de se déclarer officiellement candidat. Emmanuel Macron peut désormais se lancer à tout moment.
Jacques Serret dans la Creuse. Et puis François Hollande sait faire parler de lui. L'ancien président de la République dit qu'il n'est pas candidat à la présidentielle. Pour l'instant, tout est évidemment dans le « pour l'instant ». Il ajoute qu'il va bientôt prendre la parole. Il l'a dit sur France 3 hier soir, comme s'il manquait des candidats à gauche. En tout cas, ce que dit François Hollande ne fait pas rire du tout Anne Hidalgo, la candidate socialiste, créditée de 2% à peu près des intentions de voix dans les différents sondages. Elle a simplement déclaré ce matin « François Hollande a beaucoup d'humour ». C'est vrai que ça, ceci dit, on ne peut pas lui retirer ça, François Hollande. Tout le monde le sait, il a beaucoup d'humour, effectivement. Voilà, ça chauffe à gauche. 12h41, restez bien avec nous sur Europe 1. Dans un instant, Valérie Pécresse fait des propositions sur l'héritage, sur les droits de succession. On en parle, restez bien avec nous, à tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
12h43, je voulais qu'on revienne dans Europe Midi sur cette proposition faite par Valérie Pécresse sur les droits de succession. Elle l'a faite aujourd'hui dans le Figaro. Pour résumer, elle veut défiscaliser l'héritage pour 95% des Français et faciliter les donations. Alexandre Chauveau, c'est vous qui suivez Valérie Pécresse pour la rédaction d'Europe 1. Bonjour Alexandre.
Bonjour Romain.
Valérie Pécresse s'adresse à un électorat très particulier, vous nous dites, en faisant cette proposition.
Oui, après avoir fait un début de campagne où elle a beaucoup parlé immigration et sécurité, elle s'adresse cette fois à des électeurs plus aisés, dont certains ont voté pour Emmanuel Macron en 2017 et qui l'attendent aussi sur le terrain de la fiscalité. Concrètement, la candidate défend deux mesures principales. Premièrement, chaque parent pourra donner 100 000 euros de manière défiscalisée tous les 6 ans et non plus tous les 15 ans comme aujourd'hui. Mesure qui concernera les donations parents-enfants, mais aussi des grands-parents vers les petits-enfants. Deuxième mesure, doubler le montant des dons défiscalisés en les passant de 100 000 à 200 000 euros. Valérie Pécresse reprend ainsi à son compte les propositions d'Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes et finaliste du Congrès des Républicains, parle d'impôt sur la mort. Formule choc également employée par Éric Zemmour, qui vise lui aussi cet électorat composé de retraités, mais aussi de commerçants et de chefs d'entreprise. Un électorat traditionnellement de droite, très disputé cette année et que Valérie Pécresse n'entend donc pas abandonner à ses adversaires.
Alexandre Chauveau, merci Alexandre. Est-ce que vous avez regardé Zone Interdite sur M6 hier soir sur les dangers de l'islam radical ? Il était question notamment d'une rue à Roubaix où les objets vendus dans les magasins illustrent la montée de l'idéologie islamiste. On est en direct avec le spécialiste de ces questions, Alexandre Delval. Bonjour Alexandre Delval.
Bonjour.
Vous êtes auteur du livre « La mondialisation dangereuse ». Quand il y a une rue d'une ville de France où plusieurs librairies islamiques, des magasins de vêtements pour femmes avec uniquement des vêtements musulmans et des voiles s'installent, où il y a des marchands de poupées sans visage pour répondre à une règle islamique qui dit que seul Dieu crée les visages, est-ce que c'est uniquement pour répondre à la demande, j'allais dire commerciale, la loi de l'offre et de la demande des habitants, ou est-ce que c'est politique ?
C'est un peu les deux. Au début, il n'y a pas de demande. Rappelez-vous, il y a 25 ans, 30 ans, alors ça a commencé déjà à cette époque dans le Nord, mais si on remonte il y a 40 ans, par exemple, il y avait déjà une population musulmane importante, mais qui n'avait absolument pas ces demandes. On a créé la demande, si vous voulez, avec une technique d'embrigadement, et même si la majorité des musulmans sont pas du tout islamistes, des islamistes ont pris le contrôle de nombreuses associations musulmanes et des mosquées et des centres et des librairies, où ils ont pris le contrôle aussi de la nourriture halal, et ils ont fini par créer cette demande en disant, si vous êtes un bon musulman, vous devez consommer, vivre de manière un peu séparée. Vous prenez ce qui est intéressant pour vous dans la société mécréante, mais vous essayez de vous replier pour pas prendre ce qui risquerait de vous rendre impur. Et ils ont créé donc une véritable demande, pas chez tous, mais chez de nombreuses personnes issues de l'immigration, mais aussi récemment arrivées. Les plus radicaux sont pas forcément... Ouais. Ceux qui sont la troisième génération, comme on dit tout le temps.
Est-ce qu'il y a beaucoup de villes comme ça ? Parce qu'on a parlé de Roubaix, oui. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de villes comme ça ?
Oui, moi ça m'étonne qu'on parle que de Roubaix, parce que les librairies islamistes, par exemple, qui présentent le livre « La voix du musulman » de Jazairi, dont on a parlé dans le reportage, qui invite quand même au djihad, qui s'adresse aux musulmans d'Europe notamment, et qui dit qu'on peut même négliger le budget vêtements ou nourriture au profit du budget armement. Enfin, faut le croire. Il ouais. faut vraiment le croire. Et on peut retrouver ce livre, d'ailleurs en vente libre, c'est assez extraordinaire. Il est dans plein de librairies islamistes, à Marseille, à Nice, moi j'avais fait une enquête, à Saint-Étienne, à Besançon, dans pratiquement toutes les librairies islamiques de France tenues par des frères musulmans ou des salafistes, on retrouve La Voix du musulman de Jaïziri, où on retrouve Kardawi, qui explique le halal et le haram, donc le licite et l'illicite, best-seller, en vente libre partout en France, dans ces librairies. Le livre de Kardawi, lui, invite à frapper sa femme si elle n'est pas obéissante, mais aussi il donne les trois raisons pour lesquelles un musulman peut tuer un mécréant, notamment, ou un apostat, pour cause de blasphème ou autre. Et ça, c'est dans des dizaines et des centaines de librairies dans toute la France.
Et la loi ne prévoit rien.
Il est bon qu'on en parle aujourd'hui.
Et la loi ne prévoit rien, rapidement s'il vous plaît, Alexandre Delval, pour empêcher la vente de ce type de livre.
Malheureusement, quand j'en ai parlé à deux ministres de l'Intérieur successifs ces 20 dernières années, les deux m'ont dit « on ne peut rien faire ». Et moi, je ne crois pas justement à ce défaitisme selon lequel on pourrait rien faire. Quand il y a un appel à la haine, même si c'est au nom d'un texte révélé, la loi pourrait considérer qu'un texte de haine et de violence, il est aussi grave qu'il soit révélé ou pas. Or, aujourd'hui, on s'abrite derrière le fait que c'est un texte religieux qu'on pourrait interpréter avec un regard plus éclairé, ce qui est vrai, mais certains le prennent à la lettre, et donc il faudrait changer le regard sur certains textes, et surtout interdire ceux qui ont une lecture radicale et officiellement violente de textes que, effectivement, d'autres interprètent de manière plus douce.
Alexandre Delval, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi, auteur du livre « La mondialisation dangereuse ». Cette information Europe 1 de Louis Dragnel. Un policier de 22 ans s'est suicidé chez lui à Marseille avec son arme de service. C'est le 9e suicide de policier depuis le début de l'année. Le 9e depuis le début de l'année. Et on n'est que le 24 janvier. On parle beaucoup de la hausse des prix des matières premières. Ça concerne les particuliers que nous sommes avec l'essence, l'électricité, l'alimentation. Ça concerne aussi, bien sûr, les entreprises, quelle que soit leur taille. Et là, ça peut poser de gros problèmes. Depuis ce matin, un comité de crise créé au sein du médiateur des entreprises, travaille à régler les conflits. Carole Ferry, avec nous. Carole, on parle de quoi comme conflit ?
Bah écoutez, je vais vous prendre un exemple très concret, Romain, celui de ce chef d'entreprise du BTP. En janvier 2021, il signe un chantier à 500 000 euros, sauf que le contrat débute un an plus tard. Et entre-temps, le prix du bois, notamment, a explosé. Il se retrouve avec un surcoût de 100 000 euros.
100 000 euros de plus d'achat, ça veut dire qu'obligatoirement, on va exécuter ce marché à perte. On risque de mettre l'entreprise en péril. Donc on s'était dit, on va essayer de ne pas faire ce marché, de le faire annuler. Mais malheureusement, on est engagé avec des signatures. On aurait été obligé de verser des dommages au niveau de notre client. On a les pieds et mains liés dans tous les sens.
Alors c'est exactement la même chose quand vous faites des travaux chez vous et que l'artisan vous explique que le chantier coûte plus cher qu'à la signature du devis. Ce comité de crise va donc pousser les grandes entreprises clientes à prendre en charge une partie de ces surcoûts, même quand il y a un contrat passé, selon le médiateur des entreprises, Pierre Pellouzet.
Si c'est un grand acteur, il va mettre à mal des dizaines, voire des centaines de PME ou de TPE. Et le comité va faire remonter les informations. Nous allons ensuite tout simplement les appeler pour leur dire, on vous demande de changer de comportement parce que toute l'économie française est en train de vous regarder et que ça serait bien que vous jouiez le jeu de la solidarité.
Voilà, et le ministère n'exclut pas de rendre public le nom d'entreprises qui refuseraient éventuellement de jouer le jeu.
Merci beaucoup Carole. Carole Ferry avec nous dans Europe Midi. Restez bien sur Europe 1. Dans un instant, hommage, vous allez voir et entendre surtout en musique, à Thierry Mugler qui nous a quittés à l'âge de 73 ans. Et puis, le beau parcours de certains Français à Melbourne. A tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
12h54, le monde de la mode pleure. Thierry Mugler, le couturier phare des années 80, il est décédé hier à l'âge de 73 ans, de mort naturelle. Le créateur opérait un retour en force depuis l'automne avec une rétrospective au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Et le projet de nouvelle collaboration, Marie Jiquel avec nous. Bonjour Marie.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Thierry Mugler laissera des tenues iconiques dans l'histoire de la mode.
Oui, la collection Insectes avec des écailles peintes à la main et des brindilles sculptées. Les épaulettes guerrières chic des co-girls, les voiles à sequins pour des mannequins mi-ange, mi-alien. Et puis il y a les tenues insolites hein, comme ce corset guidon de moto dévoilé dans le clip de George Michael tout funky hein, qu'on est en train d'écouter en ce moment.
Ouais.
Et puis Thierry Mugler, c'est aussi une fragrance, ce coup d'éclat avec le parfum Angel. Un flacon se vend toutes les 10 secondes, Romain.
Ouais. J'étais influencé beaucoup par les fauves, les peintres, les fauves. Ça, c'est une chose qui est toujours très proche de moi parce qu'il y a un rythme et une violence. Et il y a quelque chose qui est plus que l'humain, une espèce d'instinct que j'aime beaucoup toujours.
Voilà, vous l'avez entendu, hein, Thierry Mugler aimait que ça flamboie comme lors de ses défilés qu'il transformait en véritable spectacle, comme ce défilé au Zénith de Paris devant 6000 personnes, Romain.
Merci beaucoup. Voilà, hommage à Thierry Mugler. Merci Marie Jiquel. Elle a 32 ans. Ça faisait 17 ans qu'elle attendait ça. La joueuse de tennis française Alizée Cornet est en quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem à Melbourne, donc l'Open d'Australie. Elle a battu Simona Halep, une des favorites du tournoi. Jean-François Pérez avec nous. Bonjour Jean-François.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Bon, tout arrive à qui sait attendre. Hein.
Oui, 64 tournois du Grand Chelem, vous vous rendez compte. C'est vertigineux, ça en dit long sur l'endurance et l'obstination de la Niçoise. Tout avait commencé pour elle en 2005. À Roland-Garros, Alizée Cornet avait passé un tour avant de buter sur Amélie Mauresmo. Petite archive, les deux joueuses à la sortie du cours, c'était sur Eurosport.
C'est vrai qu'elle est numéro 3 mondial et c'est la première fois que je joue à un niveau aussi élevé, je suis très contente.
Je crois qu'elle a envie, elle a la rage, on l'a vu sur le terrain aujourd'hui, elle lâche rien. Donc je crois qu'elle a un bel avenir, ouais, elle a un bel avenir.
Voilà, archive vintage, hein. Et voilà pour le clin d'œil, mais sans dire long aussi sur la période et le temps qui passe. Amélie Mauresmo est aujourd'hui la patronne de Roland-Garros, vous vous rendez compte, et Alizée Cornet est toujours là, 17 ans plus tard, grâce à cette victoire magnifique face à Simona Halep après 2h30 d'une bataille épique. Elle jouera donc jeudi son premier quart de finale en Grand Chelem. Ce sera face à l'américaine Danielle Collins, difficile mais pas insurmontable.
Jean-François, il y a un autre doyen du tennis français qui brille en Australie. Hein.
Oui, c'est Gaël Monfils, bien sûr. Alors, on a appris l'heure de son quart de finale. Lui, c'est son 10e en Grand Chelem, donc c'est un habitué de ce genre de tour, de compétition très relevé. Ça sera à 11h demain matin. Ce sera face à l'Italien Matteo Berrettini, qui avait été finaliste à Wimbledon l'an passé. Donc, c'est vraiment l'une des références du circuit. Gaël Monfils métamorphosé, il s'est marié, il a un nouvel entraîneur, un nouvel équipementier. Il était au fond du trou la saison passée. Et là, vraiment, il est revenu à un très bon niveau, celui de numéro 1 français, de doyen aussi, 35 ans.
Merci beaucoup, Jean-François. Le temps, tout de suite, avec Anissa Haddadi. Une très belle journée pour commencer la semaine, Anissa. Hein.
Oui, les brouillards de ce matin se sont quasiment tous dissipés. On a un soleil qui s'impose cet après-midi et qui va briller dans un ciel bien dégagé. C'est vrai qu'on a droit à un très beau lundi. Alors nous avons encore quelques petits nuages qui traînent cet après-midi sur le Val de Saône, là entre le Massif central et les Alpes, et puis en bord de mer, sur les côtes de la Manche et sur le pourtour méditerranéen. Mais rien qui pourra gâcher cette impression de beau temps, rien d'important. On a un petit peu de vent aussi du côté du Languedoc, jusqu'à 40 km/h cet après-midi. Alors même si le soleil est au rendez-vous, les températures, elles, vont rester fraîches pour cet après-midi, avec seulement 2 degrés à Dijon, c'est la minimale, 3 pour Strasbourg, 4 à Lyon et Belfort, 6 degrés pour Saint-Brieuc et Amiens, 7 à Paris, Caen et Lille, 10 degrés pour Clermont-Ferrand, 12 à Montluçon et Limoges, on a une belle brochette de 13 degrés pour Nice, Rodez, Aurillac, Biarritz ou encore Montpellier, et 15 la maximale à Tarbes.
Merci Anissa, 12h58, on se retrouve demain pour un nouvel Europe Midi. Dans un instant, c'est la France bouge. Très bon après-midi sur Europe 1.